Oh mon Dieu, c'est un vaste domaine, parce qu'on a des activités qui sont très complexes et complètes. À la fois, quand on est nommé conservateur, il y a une espèce de charte qui dit qu'on travaille pour la délectation du public. Alors moi, j'adore ce mot, et c'est vrai qu'on s'efforce au mieux que l'on peut de présenter des œuvres dans un musée de manière agréable pour le regard du public. Mais on ne fait pas que ça, bien sûr. On est là parce qu'on a un rôle de médiateur. En fait, il faut qu'on transmette nos connaissances qu'on peut avoir sur les œuvres que nous présentons. Il faut qu'on les transmette se mettent au public et bien évidemment au plus grand nombre, hein, puisqu'on travaille pour tous et en particulier pour le public qu'on dit empêché. C'est un mot que je n'aime pas beaucoup, mais on appelle le public empêché les gens qui n'ont pas l'habitude de venir dans les musées. Donc il faut qu'on arrive à les attirer vers ces lieux qui parfois leur semblent un peu compliqués.
Puisque vous êtes directrice du Musée des Beaux-Arts, on va évidemment parler de l'art plus généralement. D'abord, j'aimerais que vous vous présentiez. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à devenir directrice du Musée des Beaux-Arts?
Alors en fait, moi toute jeune, j'aimais beaucoup beaucoup l'art. Je souhaitais dans un premier temps faire l'école des Beaux-Arts. Et puis finalement, je me suis dirigée vers des études d'histoire de l'art sans savoir vraiment qu'un jour je serais conservatrice. Et puis finalement, la vie a fait que, voilà, après avoir fait mes études, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer au Musée des Beaux-Arts de Tours, qui est un très grand musée. J'ai beaucoup de chance d'être dans ce musée. C'est un musée qui est terriblement attachant, mais surtout qui possède des collections très importantes, vraiment avec une renommée internationale pour certaines de ses collections. C'est un très très grand musée de région. Donc du coup, je suis restée au musée pour ces raisons-là. Voilà.
Ah pardon.
Non mais je peux continuer.
Vous m'avez surpris.
Je peux continuer si vous voulez. Je suis rentrée un petit peu par la petite porte. Tout d'abord, tout en étant étudiante, pour faire des visites commentées le mercredi et le samedi. Et puis finalement, passant des concours, etc., j'ai été nommée conservatrice et donc je suis restée au musée. Et ce que j'aime dans ce métier, d'abord j'aime beaucoup l'endroit. L'endroit, enfin, je ne suis peut-être pas objective,
alors
mais je trouve que c'est
un
des plus beaux lieux de la ville. Mais surtout, j'aime ce métier justement pour sa diversité, parce que j'ai parlé des collections tout à l'heure en disant qu'on les expose, etc., pour le plaisir des visiteurs, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. Le métier de conservateur est beaucoup plus riche et beaucoup plus diversifié que cela.
Vous avez évoqué le plaisir, ou en tout cas d'évoluer dans ce musée des Beaux-Arts, parce que c'est à côté de la cathédrale Saint-Gatien, on peut peut-être en dire deux mots. Mm-hmm. C'est un bâtiment historique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? C'est vrai que le cadre est assez sympa pour un musée des Beaux-Arts.
Oui, tout à fait. Bon, c'est un cadre qui est vraiment unique, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que je trouve, moi, que c'est un des plus beaux lieux de la ville. En plus de ça, c'est un lieu qui est vraiment lié à l'histoire patrimoniale de la ville, hein, puisqu'il a été construit sur l'ancienne, sur les remparts gallo-romains de la ville. Et puis, le bâtiment que l'on voit aujourd'hui date du XVIIe et du XVIIIe siècle et c'était l'ancien palais des archevêques. Et au moment de la Révolution, ce bâtiment a été saisi, les archevêques ont été forcés de quitter les lieux et ce lieu est devenu donc un musée.
Alors, le musée a officiellement été créé, vous me dites si je me trompe, en 1801. Est-ce que c'est juste ?
Oui, enfin, on était déjà ouvert au public quelques années auparavant. On est un des premiers musées de région à avoir été ouvert si tôt, à la fin du 19e siècle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc les archevêques s'en vont, et dans ce lieu vont arriver là plein d'œuvres, des tableaux, mais pas que des tableaux, des meubles, des objets d'art, hein, voilà, des sculptures, etc., qui ont été saisis soit dans les églises des environs, de Tours ou des environs, soit dans les châteaux, notamment au château de Chanteloup, au château de Richelieu. Et on va se retrouver là avec un nombre impressionnant d'œuvres. Et le préfet va un beau jour, en fait, décider que cet endroit va devenir un musée. Et dans les toutes dernières années du 18e siècle, déjà, le musée est donc ouvert aux visiteurs.
Donc ça date quand même de deux siècles, c'est assez énorme.
Absolument,
énorme. D'ailleurs, finalement, on peut l'évoquer aussi brièvement, l'art de façon générale, c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps et qui remonte à la préhistoire finalement.
Bien sûr.
Donc, l'histoire de l'art. J'aimerais qu'on évoque la définition finalement de ce qu'est les Beaux-Arts, parce que qui dit musée des Beaux-Arts, faut aussi expliquer d'où vient ce mot et qu'est-ce qu'il signifie. Alors, les Beaux-Arts, c'est un ensemble finalement de disciplines artistiques qui rassemble le dessin, notamment la peinture, la sculpture et d'autres aussi un peu plus uniques comme la musique, la poésie, le théâtre et même l'architecture.
Absolument, absolument.
Est-ce que pour vous, l'architecture, c'est un art ?
Bien sûr. Bien évidemment, quand bon, il y a certains architectes, par exemple, qui ont une réputation extraordinaire. Bon, pour le XXe siècle, évidemment, on peut parler de Le Corbusier, qui est vraiment une référence. Mais même avec des architectes encore plus contemporains pour nous, comme Nouvel, par exemple, on a vraiment affaire à quelque chose de très artistique. Même si ce sont des ou bien Guéry, par exemple, Franck Guéry, même si ce sont des architectes qui sont contestés, hein, bien sûr. D'ailleurs, le terme beaux-arts est amusant parce que l'art n'est pas beau pour chacun ou pour tout le monde. L'art que vous trouvez beau n'est peut-être pas celui que moi je trouve beau.
Oui, c'est très subjectif.
Donc, c'est vrai, extrêmement subjectif, hein, c'est lié à plein de choses, c'est lié à notre sensibilité, mais c'est lié aussi à notre culture, c'est lié à plein de choses. Hein. Et d'ailleurs, c'est évidemment terriblement intéressant, hein. C'est presque philosophique là, comme réflexion, en fait. Hein.
Alors justement, j'en viens
à... Les beaux-arts est-elle le même beau pour chacun, je dirais.
Oui,
hein, c'est ça.
C'est une bonne question, mais ça pose aussi la définition finalement de ce qu'est l'art. Alors l'art, dans sa définition, je dirais classique, c'est une activité humaine qui s'adresse au sens, aux émotions. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes d'accord finalement avec cette interprétation ?
Absolument. Je dirais que l'art, en fait, là encore une fois, si vous voulez, votre question, elle est très intéressante parce qu'encore une fois, c'est une question philosophique. En fait, l'art, ça ne sert à rien, sauf que c'est essentiel. C'est tout. C'est ça que je pense. Et moi, je vis ça au quotidien, si vous voulez. Je pense que c'est... Bon, moi, j'ai besoin de l'art comme j'ai besoin, à la limite, de boire et de manger. C'est quelque chose qui est vital pour moi. C'est quelque chose parce que j'en ai besoin, parce que c'est ma vie, parce que ça me fait vibrer, donc ça me fait avancer dans la vie. Hein. Mais c'est vrai, finalement, que ça ne sert strictement à rien. Et pourtant, voilà. C'est ça.
En tout cas, c'est une utilité, je dirais, spirituelle.
Absolument.
Pour l'être humain.
Oui, tout à fait.
On va parler maintenant plutôt du technique, dans le sens où j'aimerais savoir ce que le Musée des Beaux-Arts de Tours propose comme collection. Vous avez parlé tout à l'heure de collections de renommée internationale, alors j'aimerais bien que vous nous disiez aussi à nos auditeurs, évidemment, je ne vous oublie pas, deux mots sur ces collections internationales que vous avez eues, que vous aurez dans les prochains mois.
D'accord. Alors en fait, c'est un musée des Beaux-Arts un petit peu comme d'autres musées des Beaux-Arts, c'est-à-dire qu'on a des collections qui s'étendent sur une très longue période, puisqu'on a des œuvres de l'Antiquité grecque, donc du 4e siècle avant Jésus-Christ, et on a des œuvres très contemporaines, c'est-à-dire qui datent du 21e siècle. Donc c'est vraiment un panel très large, mais avec des œuvres dans ce panel, des collections qui sont plus ou moins fortes, et aussi, dans ces collections, des œuvres phares, qui sont vraiment des œuvres que l'on trouve dans tous les grands livres d'histoire de l'art. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que Tours se positionne parmi les grands musées internationaux. Alors, on a notamment très connu les deux panneaux de Mantegna, donc c'est un artiste de la Renaissance italienne, hein, qui sont célébrissimes, qui sont vraiment des bijoux, des chefs-d'œuvre de la peinture italienne de cette époque.
Ils vous appartiennent ?
Absolument, absolument, ils nous appartiennent. Et on a une très très belle collection 17e et une très belle collection 18e, avec notamment des œuvres qui ont été saisies au château de Chanteloup, des œuvres qui proviennent des collections très importantes, des œuvres qui proviennent des collections royales, des œuvres qui proviennent des collections de Louis XIV par exemple, des œuvres qui proviennent des collections de Madame de Pompadour. Donc il y a à la fois l'intérêt de l'œuvre parce que c'est des belles signatures, mais aussi la provenance qui est prestigieuse.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que comment un musée des Beaux-Arts finalement fait pour récupérer ses œuvres ? Est-ce qu'on vous les donne ? Est-ce que vous allez les chercher ? Est-ce que par exemple, si vous voulez mettre en place une exposition, je dirais demain, pour faire dans un futur proche, est-ce que vous contactez d'autres musées pour qu'ils vous prêtent des œuvres pour cette exposition ? Comment ça se passe ?
Bien sûr. Alors déjà, le fond de la collection même, c'est-à-dire les collections permanentes. Alors encore une fois, ces collections se sont créées au moment de la Révolution. On a eu la chance en fait d'avoir là un gros fond, vraiment de qualité magnifique, hein, de qualité exceptionnelle. Et puis ensuite, ce premier fonds de collection permanente s'est enrichi au fil des années par des biais très différents, soit par des legs, soit par des dons, soit par des achats. Voilà, en gros, c'est cela. Et on a aussi parfois des dépôts. Et tout ça, ça continue d'année en année. Là, on a par exemple, en ce moment, on est en train de prévoir justement l'acquisition d'une œuvre, dont je ne peux pas vous parler encore parce que c'est du top secret, bien sûr.
Même pas
voilà,
un petit indice.
Voilà, je reviendrai vous voir peut-être dans un mois ou deux si on arrive à aller au bout de cette acquisition qu'on espère vraiment pour nos collections. Donc, on essaye quand même d'enrichir aussi par le biais d'achats comme cela. En ce qui concerne les expositions temporaires, cette fois-ci, eh bien, dans ce cas-là, c'était un prêt, en fait, pour une durée de 3-4 mois environ. Hein. Et là, on sollicite à la fois nos collègues, bien sûr, à partir du moment où on a défini notre sujet, on sait que dans tel musée, en France ou à l'étranger, il y a telle ou telle œuvre qui va nous intéresser. Donc, on sollicite nos collègues, mais on sollicite aussi, bien sûr, énormément les collectionneurs privés.
Vous avez parlé de définir votre sujet. Évidemment, il y a une espèce de... Alors, en journalisme, on dit ligne éditoriale, mais c'est aussi un peu le cas pour ces musées, puisqu'il faut bien... Vous n'allez pas prendre n'importe quelle œuvre sur n'importe quel sujet. Il y a bien une ligne conductrice à
vos expositions. Oui, bien sûr. D'ailleurs, cette ligne conductrice, si vous voulez, on est quand même un peu... voilà, on essaie de se projeter dans les 3 années à venir. Moi, je sais aujourd'hui, par exemple, quelles sont les expositions qu'on envisage de faire sur 3 ans, sur les 3 prochaines années. Parce que, bien évidemment, une exposition, par exemple, comme celle qu'on présente en ce moment, dont nous parlerons tout à l'heure, on la construit pas en 3 mois. Je veux dire, c'est des années de préparation. Donc, il faut déjà essayer de réfléchir à ça, voir comment on va construire ce sujet, le cadrer très sérieusement, et puis monter un peu une équipe de réflexion, une équipe scientifique, de conservateurs, d'universitaires qui vont travailler avec nous sur le sujet. C'était le cas, par exemple, pour l'exposition Martin qu'on a présentée l'an dernier sur Saint-Martin. Et puis ensuite, donc une fois, on a un peu une feuille de route, comme vous le dites, hein, comme cela. Une fois qu'on sait à peu près où on va, on voit à peu près comment on pourrait illustrer notre propos, parce qu'en fait, on part d'un propos. Comment on pourrait illustrer notre propos par la présentation de telle ou telle œuvre.
Est-ce qu'il n'y a pas du coup une concurrence entre les musées pour certaines œuvres? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire « bon, j'aimerais bien cette œuvre pour une exposition » et on vous dit « ah ben non, il y a déjà
un musée dessus ». Ça arrive toujours. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours un petit peu notre liste idéale d'œuvres. Et puis évidemment, à chaque fois, il y a quelques œuvres évidemment, qu'on est contraint de ne pas présenter parce que, pour plein de raisons. Soit parce qu'en effet, l'œuvre est présentée complètement ailleurs. Notre collègue d'un musée l'a déjà promis pour une autre exposition. Soit parce qu'elle a été présentée récemment et donc le musée a envie de la voir un petit peu sur ces cimaises. Voilà, ça arrive très très souvent.
Alors, on parle d'œuvres depuis tout à l'heure, mais quel type d'œuvres vous avez? Est-ce que c'est plutôt des sculptures, des peintures? Parce qu'on l'a dit, Beaux-Arts, ça regroupe tout un tas de domaines artistiques. Alors justement, quel type d'œuvres avez-vous au Musée des Beaux-Arts de Tours?
Alors, c'est pareil, on a... ce serait presque un inventaire à la Prévert que je pourrais vous faire parce que les œuvres, on a évidemment énormément de peintures, on a évidemment énormément de dessins, des gravures, des œuvres sur papier, on a du mobilier, des sculptures, mais dans nos réserves, on peut avoir de la numismatique, on a des éventails, on a des costumes 18e, enfin voilà. Des livres aussi, des livres anciens de très belle qualité, bon, c'est beaucoup, beaucoup de choses.
Des costumes aussi?
Oui, tout à fait, on a des costumes.
Et du mobilier, donc mobilier, des meubles de maison, j'imagine style Louis XIV, des choses comme ça.
Alors, on a du meuble essentiellement 17e, 18e, 19e, mais justement, comme on a beaucoup développé ces dernières années les collections 20e et 21e siècle, hein, c'était un souhait de la conservation, on a eu cette réflexion, on s'est dit, en fait, finalement, dans nos salles, nous avons souvent une harmonie entre les sculptures et les meubles. Pourquoi ne pas continuer ça pour le 20e et 21e siècle? Donc, la politique actuelle, c'est de... on a demandé donc des dépôts par le biais du Fonds national d'art contemporain à Paris, de pièces de design. Et donc, on présente des fauteuils contemporains et aussi du luminaire contemporain, de manière à créer une sorte d'harmonie, comme c'est une sorte d'ambiance, dans la continuité des autres espaces plus anciens.
Vous avez parlé de conservation. Comment on fait pour conserver ces œuvres qui sont à la fois fragiles, anciennes? C'est un subtil mélange, non, en termes techniques, c'est-à-dire comment on les conserve finalement, toutes ces œuvres?
Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on a des œuvres qui, de nature, sont très différentes. D'abord, des œuvres d'époque extrêmement différentes, et on ne conserve pas de la même manière des œuvres sur papier, du mobilier et des peintures peintes sur toile. Donc, c'est délicat. Donc, en tout cas, ça fait partie vraiment du travail du conservateur, justement. Et ça, c'est la partie pas visible de l'iceberg. Invisible, et pourtant, c'est un de nos soucis quotidiens. Donc, en permanence, on surveille justement l'état de ces œuvres. Et quand on voit, alors évidemment, on ne peut pas tout restaurer parce que ça atteint à chaque fois des sommes conséquentes, mais quand on voit qu'une œuvre très importante est en train de se dégrader, qu'on a un gros souci, dans ce cas-là, on cherche en fait un restaurateur, on demande des devis pour que l'œuvre soit restaurée au plus tôt. Donc, c'est vraiment notre travail au jour le jour, en fait. La conservation, c'est une de nos préoccupations premières.
Une peinture sur toile sur toile, non, sur toile, concrètement, ça se conserve comment? Est-ce qu'il y a une température type? Est-ce qu'il y a,
oui,
y a aussi une ventilation optimale?
Oui, oui. Alors, en principe, il y a des normes de température. En principe, il faudrait que les œuvres soient, pour être conservées le mieux possible, il faut qu'elles soient conservées entre 18 et 22 degrés. Hein. Donc évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Le musée n'est pas climatisé partout. Il y a des salles qui le sont, mais pas toutes. Donc il faut surveiller ça. On a parfois des amplitudes de température diverses. Donc on essaye de pallier au mieux en mettant des systèmes adaptés. Et au niveau de l'hygrométrie, de la même manière, il ne faudrait pas que l'hygrométrie dépasse 50%.
Voilà. 50%. Oui, ça, c'est l'humidité, en fait, ou le...
L'humidité, voilà, le taux d'humidité relatif dans l'air ne doit pas dépasser 50%, ce qui n'est pas toujours simple non plus. Donc, c'est quelque chose qu'on surveille aussi, beaucoup.
On va parler maintenant du côté public, parce que, évidemment, vous accueillez des gens qui viennent voir les expositions. Vous avez notamment un centre de documentation. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce centre-là?
Bien sûr, on a un centre de documentation parce que pour chaque œuvre au musée, nous avons un dossier de documentation qui est très riche, c'est-à-dire qu'on le nourrit d'ailleurs quotidiennement. Il y a des personnes qui s'en occupent au musée. Si par exemple, il y a un article qui paraît dans une revue sur telle et telle œuvre du musée, l'article est photocopié ou découpé, classé dans ce dossier. Bon, voilà. Donc, s'il y a une œuvre qui paraît en vente demain et qui ressemble beaucoup à une œuvre que nous avons déjà, bon, dans ce cas-là, l'œuvre aussi, enfin, c'est découpé, classé dans le dossier. Donc, du coup, on a s'il y a une publication aussi faite sur telle et telle œuvre, de la même manière, on complète nos dossiers. Donc, on a des dossiers scientifiques et des dossiers de documentation qui sont très riches. Et ces dossiers, bien évidemment, ils sont à la disposition de chacun.
Voilà, donc à la disposition du public.
Absolument. Donc, ça veut dire notamment, bon, c'est beaucoup, beaucoup d'étudiants, par exemple, de l'université qui viennent, hein, qui prennent rendez-vous et qui viennent travailler sur tel et tel dossier ou sur tel et tel artiste. Mais c'est aussi, ce sont aussi nos collègues conservateurs, chercheurs de l'université ou parfois des collectionneurs qui viennent, en fait, parce qu'ils s'intéressent à tel ou tel artiste ou telle œuvre. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment très important parce que c'est vraiment à la disposition du public.
Et vous avez environ, d'après les chiffres, en tout cas, j'ai trouvé sur votre site internet, 16 000 volumes français et étrangers.
Là, vous parlez en fait de la bibliothèque.
C'est
intéressant parce que c'est aussi complémentaire en fait. Hein, la bibliothèque qui est vraiment notre outil de travail pour nous, parce que les conservateurs sont aussi des chercheurs. On publie beaucoup, on rédige des choses. Donc il faut chercher des informations à travers ces livres. Et donc. C'est vraiment notre outil de base et cette bibliothèque qui est très utile pour nous, pour l'équipe de conservation qui travaille au musée au quotidien, c'est aussi à la disposition de la même manière pour les étudiants, pour les chercheurs qui en font la demande.
Alors justement, vous parlez d'étudiants, est-ce que vous avez des synergies et est-ce que vous travaillez en collaboration avec l'École des Beaux-Arts de Tours?
Alors on travaille beaucoup avec l'École des Beaux-Arts de Tours et on travaille de manière encore plus importante avec l'université, hein. Mais avec l'École des Beaux-Arts bien sûr, d'autant plus qu'il y a, comme vous le savez sans doute, un centre de restauration des œuvres sculptées. Donc évidemment c'est très intéressant pour nous puisqu'on leur confie tous les ans des œuvres que les étudiants qui appartiennent à cette section peuvent sculpter. Donc c'est intéressant pour eux, c'est intéressant pour nous, bien sûr.
Vous faites aussi du coup des ateliers de copie, ça c'est destiné aux étudiants en Beaux-Arts?
C'est destiné à tout le monde. Bon, ce sont, évidemment, il faut que les gens s'inscrivent. Le mercredi après-midi, il y a donc une personne qui travaille au musée des Beaux-Arts, qui elle-même est diplômée de l'École des Beaux-Arts, hein, mais qui fait de la médiation au service du public, du musée, et qui le mercredi après-midi encadre en fait ces personnes qui souhaitent se faire la main en faisant des copies d'après nos tableaux. Et ça marche très très bien.
Donc en fait, concrètement, ils sont en face d'un tableau. Et
exactement, ils ont leur chevalet, leur peinture. Et puis, donc ma collègue est avec eux pendant plusieurs heures, leur donne des conseils. Et ils copient leur tableau. Et donc, ils reviennent tous les mercredis, parce que parfois, c'est un travail de longue haleine. Hein. Ça peut durer parfois un an ou deux pour copier un tableau.
Ah, un an ou deux, carrément.
Oui, s'il faut quelque chose de très très beau, de très très compliqué.
De très pointu.
Copier Rembrandt, ce n'est pas facile.
Ah oui, effectivement. Sophie, je vous avais promis un petit quiz sur l'art. Est-ce que vous êtes prête?
Tout à fait.
Oui. Alors, je mets le petit jingle et je vous pose quelques petites questions. C'est parti. Première question. Alors, vous le savez sans doute, la Joconde a été volée. Peut-être avant de poser la première question, on va définir le cadre de ce quiz. Donc c'est sur l'art, évidemment ça porte sur l'art, toutes sortes d'art. Donc voilà, faut pas s'étonner que je commence par la Joconde qui est un symbole finalement aussi de l'art et de la peinture. Alors, la Joconde a été volée, je disais, mais quand? Quand a été volée la Joconde?
La date exacte?
La date exacte.
Ah non, mais...
Ah, c'est compliqué, hein?
Non, mais c'est très difficile, c'est impossible, je sais pas.
Alors, c'est le 21 août 1911, elle aurait été volée par Vincenzo Perugia, qui était un Italien qui travaillait au Louvre.
Oui, ce que je sais, en revanche, c'est qu'elle a été retrouvée, il l'a gardée indéfiniment dans une valise sous son lit, enfin, il était un peu...
Oui, elle est restée longtemps à Paris, en fait.
Exactement,
elle était pas loin.
Voilà, c'est ça.
Alors, deuxième question... Est-ce que vous connaissez le taux de croissance du marché de l'art en ligne?
Pas du tout.
Alors, plus 19% l'année dernière. Alors c'est...
Je pense qu'on peut arrêter les questions ici.
Ah, il y en a trois de plus encore. Trois pour VPG. Non, évidemment, c'est pas des pièges. C'est juste donner des chiffres un peu différents aux auditeurs. Alors, on peut peut-être parler brièvement du marché de l'art en ligne. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel on tend?
Oui, absolument. Tout à fait. Ça marche très bien.
Est-ce
ça marche
que vous,
très, très
vous-même,
fort.
Vous...
Jamais, je ne l'ai jamais fait. J'ai été tentée de le faire, parce que parfois les prix sont terriblement bas. Hein, et puis on a jusqu'à, par exemple, telle heure pour renchérir. Et c'est vrai que c'est très attractif, en fait. Hein, c'est très tentant. Je ne l'ai jamais fait personnellement.
Troisième question. Est-ce que vous pouvez donner un nombre d'artistes qui travaillent... d'artistes qui travaillent en France environ dans le domaine des arts visuels, donc tout ce qui est photographie, art plastique, etc.
Je ne sais pas, des milliers, je ne sais
oui.
pas.
Oui.
Mais je ne sais pas.
Alors 48 500 environ, les chiffres datent de 2009, donc ça a sûrement évolué depuis, mais en tout cas c'était les chiffres à l'époque. Quatrième question, quelle est l'œuvre selon vous la plus chère à avoir été vendue? Et c'était en 2015. Elle a été vendue aux enchères à New York.
Je crois qu'il y a Van Gogh qui a été vendu terriblement cher, est-ce que c'est ça?
Non, mais il fait partie du top 10 des ventes les plus chères, effectivement.
Lequel
c'est un Pablo Picasso, Les Femmes d'Alger, qui a été vendu à un peu moins de 180 millions de dollars, 179,4 millions de dollars. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une inflation dans l'art?
Oui, et puis ça ne veut rien dire, en fait. Ça, moi, c'est vraiment... C'est terrible, parce que finalement, les gens ne regardent que le prix. Et finalement, toute l'émotion qu'on peut avoir devant un tableau, on la laisse complètement de côté. On l'oublie, si vous voulez. Et c'est vrai que dans le domaine... dans notre milieu à nous, les conservateurs, tout ça, ça nous dépasse complètement. D'abord, ce sont des prix qui ne sont plus accessibles au musée. C'est impossible. C'est mission impossible d'acheter des œuvres à ce prix-là. Donc, ça ne veut plus rien dire. Donc, c'est... Moi, je trouve ça un peu triste, en fait. C'est trop, quoi.
Dernière question, à quand datent les premières traces d'art?
Époque préhistorique.
Oui, effectivement.
Un siècle précis, je ne saurais pas vous dire.
Alors, elle remonte à la période qu'on appelle paléolithique supérieure, de moins 30 000 à moins 12 000 avant Jésus-Christ.
Mm-hmm.
C'est quand même assez dingue, parce que finalement, l'art est apparu quand l'homme moderne, je dirais, est apparu aussi.
Exactement, quand il a voulu laisser une trace, en fait.
Oui,
la première fois.
Effectivement. Eh bien, voilà, vous en êtes
bon,
pas
donc,
si mal.
Bon, donc je ne repasserai pas à la prochaine émission parce que j'ai tout raté.
Je vous ai fait peur.
Oh, c'est impossibles.
Non, effectivement, les questions sont assez dures.
Impossible.
Et moi, j'ai les réponses, évidemment, parce que j'ai regardé tout ça avant, mais sans l'aide d'Internet, malheureusement, c'est un peu compliqué. On va parler maintenant, plus précisément, de l'exposition actuelle que vous avez depuis le 21 octobre. C'est une exposition de l'artiste Joseph Benoît Suvet, c'est ça?
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous parler tout simplement de ces œuvres-là?
Alors, Joseph Benoît Suvet n'est pas un artiste français. Il est né à Bruges en 1743. Il se trouve qu'au Musée des Beaux-Arts, on a un très, très beau tableau de Suvet qui a justifié, en fait, ce travail de recherche et cette exposition. C'est un artiste extrêmement intéressant qui a donc peint dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui est un siècle évidemment en ébullition, hein, dans cette période pré-révolutionnaire, un siècle vraiment d'émulation très, très forte entre les artistes, avec la naissance du néoclassicisme qui a vraiment bouleversé tous les codes artistiques du moment, et un artiste très intéressant qui a une carrière étonnante, mais aussi sa biographie est très attachante parce que sa vie est comme un roman et rien ne destinait a priori ce petit brugeois d'avoir cette carrière-là, d'embrasser cette carrière et de devenir surtout le premier directeur de la Villa Médicis, et c'est la raison pour laquelle on connaît d'ailleurs Suvet, parce qu'il a été le premier directeur de ce lieu tellement emblématique, tellement magnifique, qui est toujours encore aujourd'hui l'Académie de France à Rome.
On parlait tout à l'heure de vos choix d'exposition. Alors pourquoi avoir choisi des œuvres de Joseph Benoît Suvet ?
Et en fait, c'est ça, c'est parti de cette idée-là, enfin c'est parti de ce tableau-là, ce tableau que nous avons, qui représente une Vestale, qui est vraiment un tableau magnifique, qui fait partie des plus belles œuvres du corpus de Suvet. Et donc on a eu envie d'en connaître un peu plus sur cet artiste et de présenter une exposition monographique sur cet artiste. Ça n'avait jamais été fait. C'est la première exposition monographique consacrée à Suvet, parce qu'on savait qu'à la fois sa carrière valait la peine d'être présentée aux visiteurs, mais aussi que sa biographie méritait justement qu'on s'intéresse à cet homme, en fait.
Alors, il y a une centaine d'œuvres. En tout cas, vous avez pour cette exposition une centaine d'œuvres.
Exactement.
C'est ça. C'est beaucoup.
C'est normal pour nous. C'est à peu près. C'est normal. On a à peu près autant de peintures que de dessins.
Et alors du coup, là on est en face d'un cas concret, vous avez fait comment pour récupérer ces œuvres? Parce qu'évidemment les 100 œuvres vous ne les aviez pas, vous les avez récupérées où? Comment? Dans quelles conditions?
Oui, alors d'autant plus que ce qui est intéressant dans une exposition, c'est avant tout de montrer des œuvres qui sont inédites. Parce qu'il ne s'agit pas de remonter toujours les mêmes tableaux. Alors Suvet, c'est pas un artiste qui était très connu, donc c'est pour ça aussi que le jeu était intéressant, si vous voulez. C'était une sorte de challenge. Mais néanmoins, il y a quand même des œuvres de Suvet au musée du Louvre, par exemple. Donc évidemment, on s'est dit, bon, c'est peut-être pas intéressant de montrer des œuvres qui sont vues quotidiennement par les visiteurs du Louvre. Donc on a vraiment choisi aussi beaucoup d'œuvres dans des collections particulières, des œuvres complètement inédites ou des œuvres que nous avons redécouvertes au cours donc, du travail qu'on a pu faire sur cet artiste. Alors ce qu'on a fait, c'est que donc on a fait une sorte de liste de toutes les œuvres de Suvet que nous trouvions, et donc on a sélectionné les œuvres qui nous semblaient les plus intéressantes, soit des œuvres qui étaient marquantes d'une période précise de notre artiste, et donc on a sollicité à la fois les grands musées français, comme notamment le musée du Louvre, le château de Versailles, les musées aussi de région, on a des œuvres qui viennent de Rouen, des œuvres qui viennent de Montpellier, etc. Et puis on a sollicité aussi beaucoup les collections française et belge, puisque Suvet étant né à Bruges, il y a beaucoup d'œuvres de Suvet chez nos amis belges, notamment beaucoup à Bruges, à Bruxelles ou à Gand. Donc on a des œuvres qui viennent de ces trois grandes villes-là de Belgique. Et il y a des œuvres auxquelles on a dû renoncer, bien sûr, soit parce qu'elles étaient trop grandes. Il y a notamment un très très grand tableau de Suvet qui se trouve au musée de Rouen. Mais il aurait fallu, pour l'avoir, que le musée de Rouen le décroche, d'accord ? Mais aussi...
Le transport aussi, j'imagine.
Le transport, mais surtout, ils étaient obligés de le décadrer et de décrocher la toile du châssis et de rouler la toile pour pouvoir le sortir, parce que ça ne passait pas par la porte de la salle de Montpellier. Donc ça aurait été de toute façon la même chose. Ensuite, il fallait le transporter et à Tours, le remettre sur châssis. Alors d'abord, c'est pas bien, c'est très cher et surtout, c'est très 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 mauvais pour les œuvres.
Oui,
donc on a renoncé. Ah bah oui, ça aurait beaucoup trop abîmé l'œuvre. Donc on a renoncé à ce prêt. Cependant, si vous allez voir l'exposition, vous le remarquerez, on a quand même des très grands formats que nous avons donc pu emprunter pour notre exposition. Il y a aussi des prêts auxquels on a renoncé parce que le transport était trop cher, notamment une œuvre des États-Unis, du LACMA à Los Angeles, qu'on aurait vraiment aimé avoir, mais là franchement, ça dépassait largement notre budget, donc on a renoncé à cela. Mais cependant, il y a vraiment beaucoup d'œuvres qui sont vraiment de très très belle qualité. C'est vraiment une très belle exposition.
Est-ce que ça a été facile pour vous de vous procurer ces œuvres-là?
Est-ce que ça a été facile?
Mis à part évidemment les problèmes de transport.
Parfois, on a reçu des réponses négatives. Et quand on tenait absolument à ces œuvres, écoutez, on a négocié. On a dit, écoutez, vraiment, c'est de la première expression de Suvet, c'est très important. On aura des prêts très importants, notamment du musée du Louvre, du musée de Bruges, etc. Donc petit à petit, on a réussi à obtenir à peu près tout ce qu'on souhaitait.
Qu'est-ce qui peut convaincre finalement les musées à vous donner une œuvre de Suvet, en tout cas les plus réticents?
Alors nous, on a beaucoup de chance à Tours parce que tous les ans, on fait des expositions vraiment de grande envergure. Donc on a quand même notre sérieux qui joue pour nous. Le musée de Tours est un musée qui correspond complètement aux normes exigées maintenant dans des musées de cette importance-là. Normes de sécurité, normes de conservation, etc. Donc on a un sérieux qui joue pour nous, si vous voulez. Donc c'est vrai que si on demande une œuvre au Louvre, le Louvre dit oui. Alors que le Louvre, parfois, peut être réticent, même très réticent, pour prêter une œuvre, par exemple, dans un petit musée qui ne présenterait pas toutes les garanties suffisantes. Donc ça, c'est bien. On a aussi pour nous le fait qu'à chaque fois, on fait des expositions importantes avec des catalogues de très belle qualité, avec un travail scientifique à la clé, etc. On essaie de faire avancer, en fait, les choses dans le domaine de l'histoire de l'art. Et ça, en fait, tout ça, c'est parfait, si vous voulez. Et puis, donc, on arrive comme cela à obtenir, je dirais, presque toutes les œuvres que nous souhaitons, presque toutes.
Cette exposition, elle a commencé le 21 octobre, c'est ça, et elle dure jusqu'à janvier.
Jusqu'au 23 janvier.
23 janvier. Et alors, du coup, dans la foulée, je dirais, et d'ailleurs bientôt, le samedi 18 novembre, donc ce samedi-là, à 16h, vous faites une conférence vous-même sur Suvé. Et sur cet artiste-là, pardon, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, parce qu'en fait, on a des visites commentées 3 fois par semaine à 14h30, le lundi, le mercredi et le samedi. Ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement pour toutes nos expositions temporaires, où là, il y a quelqu'un, il y a un accueil des visiteurs, où il y a une présentation de l'exposition. Ça, c'est une chose. Et puis, de temps en temps, à peu près 2 fois par mois, on présente une conférence à 16h le samedi sur un thème spécifique lié à cette exposition. Alors là, cette semaine, samedi, donc je parlerai d'un événement, en fait, dans la carrière de Suvé. Suvé a été, en 1792, élu nouveau directeur de l'Académie de France à Rome. Voilà. Et en fait, l'Académie de France à Rome était à l'époque au Palais Mancini, sur le Corso, à Rome, donc en plein centre de Rome. Mais le palais Mancini va être dévasté par des émeutes très importantes à Rome, dévasté, pillé, incendié. Et lorsque Suvé va pouvoir enfin arriver à Rome, il va trouver cet endroit dans un état absolument catastrophique, et les travaux auraient été vraiment trop importants et trop chers. Donc l'État français va décider de faire déménager l'Académie de France à Rome, et donc le lieu qui est choisi et Suvé va jouer un rôle dans ce choix, ce sera la Villa Médicis, et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore l'Académie de France à Rome se trouve dans ce lieu magnifique.
Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce qui va se passer après cette exposition, après Suvé? Est-ce que vous avez déjà prévu une autre exposition?
Oui, absolument, bien sûr.
Pour 2018.
Bien sûr, en 2018. Donc, il y a une exposition qui va commencer au mois d'avril. Enfin, je n'ai pas les dates exactes encore, ce n'est pas encore défini. Qui est une exposition qu'on réalise avec l'université. C'est un partenariat étroit avec l'université de Tours sur la sculpture 3D. Donc, en fait, là, c'est tout à fait différent de Suvé. Ça n'a absolument rien à voir. Mais le jeu, justement, c'est de ne pas présenter chaque année des expositions semblables, je dirais dans le même esprit, des expositions à chaque fois un peu différentes. Et donc, c'est un travail donc, qui montrera des sculptures du musée et des reconstitutions 3D. Voilà, donc c'est une lecture différente de l'œuvre, et ça permettra donc justement aux visiteurs de comprendre comment la science aujourd'hui nous permet d'avoir un nouveau regard sur les œuvres.